Chapitre 14. Retour. Aussi loin que remonte notre histoire, le commerce et la guerre ont toujours existé entre les six duchés et les îles d'outre-mer. Avec la régularité de la marée qui monte et qui descend, nous avons pratiqué le négoce et nos enfants se sont mariés avec les leurs, puis nous sommes entrés en conflit et avons massacré nos propres frères. Ce qui distingue la guerre des pirates rouges dans cette sanglante tradition est le fait que, pour la première fois, les Outriliens se sont trouvés unis sous la bannière d'un seul chef. Cet homme s'appelait Kebal Pincru. Les descriptions qu'on a de lui ne s'accordent pas entre elles, mais pour la plupart, les relations affirment qu'il a débuté dans la vie comme pirate. Il était doué à la fois comme marin et comme guerrier, et les hommes qu'il commandait s'en portaient très bien. Les échos de leurs exploits et de l'abondance de leurs butins ont attiré d'autres hommes de même caractère à se joindre à lui, et il s'est bientôt retrouvé à la tête d'une véritable flotte de navires pirates. Il aurait pu malgré tout demeurer un simple écumeur prospère qui se contente de porter ses attaques là où le vent le pousse. Mais il a entrepris d'unir par la force tous les Outriliens sous son autorité. La forme de coercition qu'il employait ressemblait singulièrement à la forgisation dont il s'est servi par la suite contre les habitants des six duchés. C'est à cette époque qu'il a décrété que tous ses vaisseaux devaient être peints en rouge et que leurs assauts se concentreraient exclusivement sur les côtes des six duchés. Il est intéressant de noter que c'est au moment où Kebal Pincru introduisait ces changements tactiques que l'on entendit parler, dans les six duchés, d'une femme pâle qui se tenait à ses côtés. Récit de la guerre des pirates rouges, de Gérepu. Nous atteignîmes Bourg de Castelserre à la fin de l'après-midi. Nous aurions pu arriver beaucoup plus tôt, mais le fou avait fait exprès de nous retarder, en imposant une halte sur la berge sablonneuse d'une rivière pour un déjeuner qu'il fit durer hors de toute proportion. Je pense qu'il voulait accorder au prince encore une journée de calme, avant qu'il ne replonge dans le tourbillon de la cour. Aucun d'entre nous n'avait évoqué l'agitation et l'exubérance qui accompagnerait la cérémonie de fiançailles à la nouvelle lune. Il avait plu au prince de se faire complice de notre comédie, au fou et à moi, si bien qu'il avait maintenu sa monture à la hauteur de Malta, et comme l'aurait fait tout jeune homme bien né, n'avait prêté nulle attention au valet rustique du seigneur doré. Sans jamais se départir de son attitude princière, il avait laissé le gentilhomme le divertir par ses aristocratiques récits de chasse, de bals et de voyages lointains. L'oreiller de l'autre côté de Sire Doré avait gardé le silence la plupart du temps. Je crois que Devoir s'amusait de son nouveau rôle, et je le sentais soulagé d'être accepté parmi nous. Il ne se voyait plus comme un enfant indocile, ramené de force chez sa mère par des adultes, mais comme un jeune homme, victime d'une mésaventure et revenant chez lui en compagnie d'amis. Son insupportable sentiment de solitude s'était apaisé. Cependant, je percevais l'angoisse qui montait en lui à mesure que nous approchions de Castelserre. Elle battait dans le lien d'art qui nous unissait, et dont je me demandais s'il avait autant conscience que moi. La pauvre Laurier paraissait déconcertée par le brusque changement qui était intervenu chez le prince. Il semblait avoir retrouvé toute sa joie de vivre et relégué au passé les malheurs qu'il avait connus chez les pies. J'ignore si elle percevait le son grêle et fragile de son rire ou remarquait l'adresse avec laquelle Sire Doré soutenait la conversation lorsque le prince ne parvenait plus à s'y intéresser. Mais ces détails ne m'échappaient pas. Et je me réjouissais que le garçon se raccrocha si fermement au fou. Je chevauchais donc seul, quand, en début d'après-midi, la grand-veneuse ralentit en laissant le prince et Sire Doré à leur nouvelle amitié. Je me trouvais bientôt à sa hauteur.
« On ne dirait plus le même ?»
fit-elle à mi-voix. « En effet, » répondis-je, en m'efforçant d'effacer toute trace d'ironie dans mon ton. À présent que les deux nobles étaient occupés, elle daignait remarquer ma présence. Cependant, je le savais, je ne pouvais lui reprocher de choisir avec soin sur qui jeter son dévolu. Et avoir réussi à attirer l'attention de Sire Doré n'était pas une mince victoire pour elle. Essaierait-elle d'entretenir leur relation une fois revenue à Castelserre? Dans l'affirmative, elle susciterait la jalousie de toutes les dames de la cour. Et le fou, jusqu'où allait son affection pour elle? Mon ami était-il réellement en train de s'amouracher d'elle? J'observais le profil de la jeune femme qui chevauchait en silence à mes côtés. Le fou aurait pu beaucoup plus mal tomber. Elle éclatait de santé, elle était jeune et bonne chasseuse. Je reconnus soudain dans mon jugement les valeurs du loup. Je retins mon souffle un moment, en attendant que la douleur se calme. Laurier était plus perceptive que je ne l'avais cru. « Je suis navré. » Elle avait parlé à voix basse, et c'est à peine si je l'entendis. « Vous savez que je n'ai pas le vif. J'ignore pourquoi il m'a laissé de côté pour préférer mes frères et ma sœur. Cependant, je puis imaginer votre souffrance. J'ai été témoin des tourments de ma mère à la mort de son jarre. Il avait 40 ans, et il avait survécu à mon père. Pour ne rien vous cacher, c'est ce qui pousse à considérer le lignage autant comme une calamité que comme une bénédiction. Et je l'avoue, quand je mesure les risques et le chagrin encouru, je ne comprends pas qu'on pratique cette magie. Comment peut-on laisser un animal s'emparer si complètement de son cœur en sachant la brièveté de son existence? Qu'y a-t-il à gagner qui vaille la douleur qu'on ressent chaque fois que son compagnon meurt? Je ne trouvais rien à répondre. En vérité, sa compassion avait la dureté d'un roc. « Je suis navré, » répéta-t-elle au bout d'un moment. « Vous devez me juger insensible. Fradecer me voit ainsi, je le sais. Mais je puis seulement lui dire ce que je viens de vous expliquer. Je ne comprends pas cette façon de vivre et je ne l'approuve pas. Mon sentiment reste et restera toujours qu'il vaut mieux ne pas toucher à la magie du lignage. » Si j'avais eu le choix, je partagerais peut-être cette opinion, répliquai-je. Malheureusement, je suis né ainsi.
Tout comme le prince,
fit-elle après un instant de réflexion.
Kedah nous garde tous et préserve son secret.
C'est aussi mon souhait, et Kedah préserve le mien également, ajoutai-je d'un ton appuyé, en jetant un regard en biais à la jeune femme.
Je ne pense pas que Sire Doré vous trahirait.
Il vous estime trop en tant que serviteur. Manifestement, elle n'avait pas songé que je puisse craindre ses propres bavardages. Elle aiguilla mes pensées sur une nouvelle voie en déclarant soudain « Et puisse mes liens familiaux ne jamais être connus. » Je répondis de la même façon qu'elle. Étant donné la haute opinion qu'a de vous, Sire Doré, à la fois en tant qu'amie et en tant que grand-veneuse dévouée de la reine, je suis sûr qu'il ne laisserait jamais échapper le moindre propos qui risquerait de vous déconsidérer ou de vous mettre en danger. » Elle me jeta un coup d'œil en coin, puis demanda timidement.
« En tant qu'ami, croyez-vous ? »
Un petit rien dans son regard et dans le pli de sa bouche m'avertit qu'il valait mieux ne pas répondre à la légère.
« C'est ce qu'il me semble, » dis-je d'un ton un peu contraint.
Elle redressa les épaules comme si je venais de lui faire un cadeau.
« Et vous le connaissez bien, et depuis longtemps, » fit-elle, brodant sur mes paroles.
Je me gardais de corroborer cette affirmation. Elle resta quelque temps le regard lointain, et nous ne parlâmes plus guère par la suite, mais je remarquais qu'elle fredonnait tout bas, le cœur apparemment léger. Je notais aussi que je n'entendais plus le prince. Sire Doré continuait à faire la conversation, mais le jeune garçon regardait droit devant lui, raide dans sa selle, et il ne desserrait plus les dents. La silhouette obscure de la citadelle de Castelserre se dressait au sommet des falaises noires, découpée sur un banc de nuages sombres quand nous arrivâmes à bourg de Castelserre. Le prince avait rabattu sa capuche sur son visage et chevauchait à mes côtés. Laurier l'avait remplacé auprès de Sire Doré et paraissait ravi de l'échange. Devoir et moi ne devisions guère, plongés dans nos réflexions personnelles. Le trajet jusqu'au château nous conduirait par la route escarpée jusqu'à la porte ouest. Nous allions rentrer par où nous étions sortis. Nous passâmes de nouveau devant les chaumières éparpillées au bas de la côte, et quand je vis des festons de verdure sur le linteau d'une porte, je crus avoir affaire à un fêtard trop pressé. Mais j'aperçus plus loin une autre maison décorée, puis, à quelque distance de là, un groupe d'ouvriers occupés à dresser une arche ornementale sur la route, tandis que des villageois fabriquaient des guirlandes de lierre tressées d'aubéflette pour les accrocher sur l'arceau.
« Eh bien, vous vous y prenez tôt, dites-moi !»
leur lança Sire Doré d'un ton enjoué. Un garde cracha par terre, puis éclata de rire.
« Tôt, messire, On serait plutôt en retard, oui. Tout le monde croyait que les tempêtes allaient retenir le navire des fiançailles, mais on dirait que les Outriliens s'en sont servis pour voler sur les ailes du vent. Les galères de la délégation sont arrivées à midi avec la garde d'honneur de la princesse. Elle, on l'attend avant le coucher du soleil, à ce qu'il paraît, et il faut qu'on soit prêt.
Vraiment ? Fit Sire Doré avec enthousiasme. Ma foi, je ne veux pas être en retard pour les festivités.
Il se tourna en souriant vers Laurier.
Ma chère, je crains qu'il ne faille nous hâter. Vous deux, vous pouvez continuer à l'allure qui vous convient, ajouta-t-il en nous regardant, le prince et moi. Puis il talonna Malta qui s'élança lestement, et Laurier fit de même.
Nous les suivîmes, mais à un train plus posé. Arrivés en haut de la montée, le fou et la jeune femme franchirent la porte du château. Pour ma part, je profitai de la traversée d'un bosquet pour faire quitter la route à Manoir, en faisant signe au prince de m'imiter. Je m'étais engagé sur un simple sentier tracé par des animaux, et de voir derrière moi, je poussais Manoir à se frayer une voie dans les taillis de ce chemin que je me rappelais à peine. Nous longeâmes l'enceinte de la forteresse jusqu'à un emplacement que le loup m'avait montré bien des années plus tôt. Un épais roncier dissimulait toujours le pied des remparts, mais j'étais sûr que la vieille brèche s'ouvrait derrière les épines. Dans la pénombre de la muraille, nous descendîmes de cheval.
« Où sommes-nous ? » demanda Devoir.
Il rabattit son capuchon en arrière pour observer les alentours avec curiosité. « Là où nous allons attendre. Je ne veux pas courir de risques en vous faisant franchir l'une ou l'autre porte. Humbre va envoyer quelqu'un nous chercher, et je suis certain qu'il trouvera un moyen de vous faire rentrer de façon à donner l'impression que vous n'êtes jamais parti. Vous avez tenu à passer les derniers jours en méditation, et vous allez sortir de votre retraite pour faire la connaissance de votre fiancé. Il est inutile qu'on en sache davantage.
« Je vois, »
répondit-il d'une voix atone. Le ciel se couvrait et le vent commençait à forcir.
« Que faisons-nous maintenant ?»«
Nous attendrons. »«
Nous attendons. »
Il poussa un soupir. « Si la pratique mène à la perfection, je devrais exceller à l'attente à présent. » Il paraissait fatigué, et il faisait plus que son âge. « Au moins, vous êtes revenu chez vous, » dis-je pour le consoler.
« Oui. »
Son ton manquait d'enthousiasme. Au bout d'un moment, il reprit.
« J'ai l'impression d'avoir quitté Castelserre depuis plus d'un an, alors que c'était il n'y a même pas un mois. Je me revois allongé sur mon lit, en train de compter les jours qui me restaient avant la nouvelle lune, avant de me trouver au pied du mur, et puis, pendant une période, j'ai cru pouvoir l'éviter. J'ai éprouvé une impression bizarre, toute la journée d'aujourd'hui, à songer que je retournais à mon ancienne existence, que j'allais en reprendre le fil dans tous ces détails comme si rien ne s'était passé. C'était accablant. Je m'étais promis un ou deux jours de calme et de solitude pour mesurer à quel point j'ai changé. Voici que la délégation outrilienne vient sceller mes fiançailles ce soir même. C'est ce soir que ma mère et la noblesse outrilienne décident du cours de ma vie tout entière. Je voulus sourire, mais j'avais trop le sentiment d'être en train de le livrer à ses bourreaux. J'étais passé jadis à un cheveu d'un sort semblable. Je prononçai la première phrase qui me passa par la tête. « Vous devez être impatient de faire la connaissance de votre futur fiancé. » Il me regarda d'un air inexpressif. « Inquiet » serait peut-être un terme plus juste. Il est assez effrayant de s'apprêter à rencontrer celle qu'on va épouser en sachant qu'on n'a aucune voix au chapitre. Il éclata d'un rire amer. D'un autre côté, je dois reconnaître que le résultat n'a rien eu d'admirable quand j'ai cru décider moi-même qui j'aimais. Il soupira. 11 étés. Elle a 11 étés. Il détourna le regard. Mais de quoi vais-je bien pouvoir lui parler? De poupée? De broderie? Il croisa les bras et s'adossa à la muraille glacée. Je crois même qu'on n'apprend pas à lire aux femmes dans les îles d'outre-mer. Ni aux hommes d'ailleurs.
Ah. Je me creusai furieusement la cervelle sans trouver mieux à répondre. Il aurait été inutilement cruel de lui faire remarquer que la différence était minime entre 11 et 14 ans. Je me tus donc et le temps passa. Sans crier gare, la pluie qui menaçait depuis plusieurs heures s'abattit sur nous, en un de ces brusques déluges qui tremblent jusqu'aux os et emplissent les oreilles d'un bruit assourdissant. J'avoue que j'éprouvais un certain soulagement à ce que toute conversation devint dès lors impossible. Dans une dérisoire tentative pour nous protéger, nous nous pelotonnâmes l'un contre l'autre, tandis que les chevaux, la tête basse, ruisselaient d'eau. Nous étions mouillés et glacés jusqu'à la moelle quand Humbre se présenta enfin pour faire entrer le prince dans la forteresse. Peu disert, il me salua rapidement et promit de me voir sous peu. Puis il disparut avec le garçon. Seul, sous les trompes d'eau, j'eus un sourire sans joie. Tout se passait comme je l'avais prévu. Le vieux renard n'avait pas condamné son issue secrète, mais il ne tenait pas à m'en montrer l'emplacement exact. Je pris une longue inspiration. Ma mission était achevée. J'avais ramené le prince sain et sauf à Castelserre, à temps pour ses fiançailles. J'essayais de ressentir diverses émotions. Triomphe, joie, exaltation? Non. J'étais trempé, fatigué, affamé, glacé jusqu'au cœur. Seul. Vide. Je montai sur ma noire et me mis en route sous la pluie, la monture du prince à la bride. La lumière déclinait et les sabots des bêtes glissaient sur le tapis de feuilles mouillées. J'étais obligé d'avancer lentement. Le feuillage des buissons que nous traversions était gorgé de pluie. Je n'avais pas cru possible d'être plus trempé que je ne l'étais déjà, mais je me trompais. Quand j'atteignis la route qui montait à Castelserre, je la trouvai embouteillée d'hommes et de femmes à pied, de chevaux et de litières. Un pressentiment m'avertit qu'on n'allait certainement pas s'écarter pour me laisser passer ni me permettre de me joindre à la procession. Je la regardai donc défiler devant moi, les rênes de manoir dans une main, celle du Louvet pitoyable dans l'autre. D'abord venaient les porteurs de torches, qui tenaient bien haut leurs brandons enflammés pour éclairer le chemin, puis la garde royale en blanc et en violet, avec l'emblème du renard monté sur des chevaux blancs, le tout ne manquant pas d'éclat bien que dégoulinant de pluie. Derrière se présenta un intéressant mélange de gardes princiers et de guerriers outriliens. Les soldats du prince arboraient la tenue bleue de Castelserre, frappés du cerf loin-voyant, et ils marchaient à pied, par courtoisie envers les outriliens, je présume. Les protecteurs de la Narcesca étaient des combattants de la mer, pas des cavaliers. Leurs fourrures et leurs habits de cuir étaient détrempés, et je songeais que l'atmosphère de la grande salle allait s'alourdir d'une forte odeur à mesure que ses vêtements sécheraient. Leurs propriétaires avançaient à grands pas, en rang parfait, avec la démarche chaloupée d'hommes qui ont longtemps vécu en mer et s'attendent à sentir le pont se soulever sous eux à chaque enjambée. Ils portaient leurs armes comme des bijoux, et leurs bijoux comme des armes. Des pierres précieuses brillaient aux ceintures d'épée, et je distinguais plusieurs manches de haches cerclées d'or. Je formais le vœu qu'aucune rixe n'éclate entre les compagnies mêlées de gardes. Il ne fallait pas oublier que c'étaient des vétérans des deux camps de la guerre des pirates rouges qui marchaient ce soir côte à côte. Les nobles outriliens apparurent ensuite, montés sur des chevaux qu'on leur avait prêtés et l'air singulièrement mal à l'aise ainsi juché. J'observais parmi eux un assortiment d'aristocrates des six duchés venus les accueillir au port. Je les identifiais plus à leur armoirie qu'à leurs traits. Le duc de Labourg était beaucoup moins âgé que je ne m'y attendais. Deux jeunes femmes arboraient l'emblème de Béarn, et, bien que je reconnisse leur air de famille, je ne les avais jamais vues. Le défilé de nobles et de militaires se poursuivit, et je le regardais passer, immobile sous la pluie. Je vis venir la litière de la future fiancée de devoir. Vaste et blanche, elle semblait flotter comme un nuage harnaché aux épaules des champions royaux. Les jeunes gentilshommes qui l'accompagnaient à pied, des torches à la main, dégoulinaient de pluie, crottés jusqu'aux genoux. Les fleurs et les guirlandes qui l'ornaient pendaient misérablement, accablées par les rafales de vent et les trombes d'eau. L'aspect de ce palanquin, mis à mal par la tempête, aurait pu passer pour un signe de mauvais augure sans l'enfant qui l'abritait. Loin d'être tiré pour la protéger du baiser brutal de la bourrasque, les rideaux étaient au contraire grands ouverts, et les trois dames des six duchés, qui se trouvaient dans la litière, constataient avec résignation les dégâts que la pluie infligeait à leur coiffure et à leurs atours. Toutefois, au milieu d'elles,
une petite fille était assise qui jouissait manifestement des éléments déchaînés. Elle portait des faits ses longs cheveux d'un noir d'encre, plaqués sur sa tête par l'eau. Ils m'évoquèrent la fourrure du notari, dont elle avait aussi les grands yeux sombres et pourtant limpides. Elle posa un instant son regard sur moi, un sourire ravi découvrant ses dents blanches. Comme l'avait dit le prince, c'était une enfant de 11 ans. Une petite créature solide, aux pommettes larges, aux épaules carrées, visiblement résolue à ne pas manquer une seconde du trajet qui la menait au château, au sommet des falaises. En l'honneur de son futur fiancé, peut-être, elle était vêtue en bleu de serre, avec un curieux ornement de la même couleur dans la chevelure, mais son gilet à haut col était en fin cuir blanc, brodé de narvals bondissants en fil d'or. Je lui rendis son regard avec l'impression de l'avoir déjà vu, ou d'avoir rencontré quelqu'un de sa famille, mais, avant que je puisse éclaircir ce souvenir indistinct, la litière était passée et poursuivait son chemin vers la forteresse. Il me fallut encore attendre sous la pluie, car une autre escorte d'honneur la suivait, composée de ses guerriers et des nôtres. Quand enfin toute la noblesse et ses hommes d'armes eurent fini de défiler devant moi, je fis avancer ma noire sur la route en piteux état, et je me joignis à un flot de commerçants et d'artisans qui montaient au château. Certains transportaient leurs marchandises, roues de fromage enrobées de cire ou tonnelets d'alcool fin, sur leur dos, d'autres dans des carrioles. Je me fondis dans leur masse et franchis sans me faire remarquer la grande porte de Castelserre. Des garçons d'écurie s'occupaient des chevaux et devaient se donner beaucoup de mal pour ne pas se laisser déborder par l'afflux incessant d'animaux. Je leur confiai le louvet du prince, mais leur dis que je préférais m'occuper moi-même de ma noire, ce dont ils se montrèrent soulagés. Je prenais peut-être là un risque stupide, et si je tombais sur pogne et qu'ils me reconnaissent. Mais vu le nombre d'étrangers et de bêtes supplémentaires qui avaient envahi les écuries, cela me paraissait improbable. Les employés me dirent de mener ma noire aux vieilles écuries, qui servaient désormais aux montures des domestiques. Je m'aperçus qu'il s'agissait de celle de mon enfance, où Burick avait régné en maître et où j'avais été son bras droit. Avant de quitter ma jument, je l'installai dans un box et m'occupai soigneusement d'elle, et ce travail familier me procura un curieux apaisement. L'odeur des animaux, celle de la paille, la lueur sourde des lanternes accrochées de loin en loin, les bruits des bêtes qui s'apprêtaient à dormir, tout cela tranquillisa mon âme. J'avais froid. J'étais trempé. J'étais épuisé. Mais je me trouvais dans les écuries de Castelserre. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas été aussi près de ce que je pouvais considérer comme un foyer. Tout avait changé dans le monde, mais ici, dans les écuries, tout était demeuré presque semblable. Cette idée ne me quitta pas tandis que je traversais, à pas lourds, la cour animée, puis franchissais la porte de service. Tout avait changé à Castelserre, tout en restant quasiment tel quel. Je retrouvais la chaleur, les bruits de vaisselle et les bavardages qui émanaient des cuisines, le pavé sale de l'entrée de la salle des gardes et l'odeur qui s'exhalait de la pièce, mélange de laine humide, de bière et de viande fumante. J'entendais en provenance de la grande salle des bribes de musique, des éclats de rire, un brouhaha de conversation mêlé aux cliquetis des couverts. Des dames passaient près de moi en toute hâte, et leurs femmes de chambre me jetaient des regards noirs, comme si elles me mettaient au défi d'avoir l'audace de dégoûter sur leur maîtresse. À l'entrée de la grande salle, deux jeunes gentilshommes en taquinaient un troisième, qui n'osait pas adresser la parole à certaines damoiselles. Les manches de la chemise de l'un d'eux étaient bordées de queues d'hermine à bout noir, tandis qu'un autre portait un col si empesé d'anneaux d'argent qu'il pouvait à peine tourner la tête. Je me rappelais les tourments que maîtresse pressée m'avait fait endurer avec son amour des vêtements à la mode, et je ne pus que plaindre les trois jeunes gens. Ma chemise était en drap grossier, mais au moins, je pouvais m'y mouvoir en toute liberté. Autrefois, j'aurais été tenu de faire une apparition lors d'une telle occasion, bien que je ne fusse qu'un bâtard. Quand Quetriken et Vérité avaient pris place à la table haute, il m'était arrivé de m'asseoir non loin d'eux. Au temps où j'étais Fitz Chevalerie loin-voyant. Je m'étais régalé de mets délicats. J'avais devisé avec de nobles dames et j'avais écouté les meilleurs musiciens des six duchés. Mais ce soir, j'étais Tom Blaireau, et j'aurais été le plus grand nigaud du monde de regretter de passer inaperçu au milieu des festivités. Plongé dans mes souvenirs, je faillis emprunter l'escalier qui menait à ma chambre de jadis. Mais je me repris à temps et me dirigeai vers les appartements de Cire Doré. Je frappai à la porte, puis entrai. Le fou était absent, mais tout indiquait qu'il était passé chez lui. Il s'était baigné, puis habillé de frais, et sa hâte était évidente. Un coffret à bijoux était resté sur la table, son contenu renversé sur le bois poli. Quatre chemises avaient été essayées, puis jetées sur le lit. Plusieurs paires de chaussures jonchaient le sol, dédaignées. Avec un soupir, je remis de l'ordre dans la chambre. Je fourrai deux des chemises dans la penderie, en fis autant des deux autres dans un coffre. Puis je refermai la porte du placard sur les vêtements et les chaussures amoncelées. J'ajoutai du bois au feu, allumai des chandelles neuves dans les bougeoirs en cas de retour tardif du maître des lieux et nettoyai l'âtre. Enfin, je parcourus la pièce du regard. Toute plaisante qu'elle fût, elle me parut soudain terriblement vide. Je rassemblai mon courage et, une fois de plus, explorai la partie de mon esprit que le loup n'habitait plus. Un jour, il me paraîtrait normal qu'il ne s'y trouve rien, mais pour le moment, je n'avais pas envie de rester seul avec moi-même. Je pris une bougie et me rendis dans ma chambre obscure. Rien n'y avait bougé. Je fermai la porte derrière moi, mis le verrou, puis entamai la longue et fastidieuse montée des étroits escaliers qui menaient à la tour d'Imbre. Je m'attendais à demi à l'y trouver, impatient d'entendre mon compte-rendu, mais je me trompais naturellement. Il devait participer aux festivités. Cependant, malgré son absence, ses appartements étaient prêts à m'accueillir. Une baignoire avait été installée près du feu et une grosse marmite d'eau bouillante était suspendue à la crémaillère. Un repas, manifestement prélevé sur les mets dont se régalaient les nobles en cet instant, m'attendait sur la table, accompagné d'une bouteille de vin. Une seule assiette, un seul verre. J'allais dîner en tête à tête avec moi-même. J'aurais pu me lamenter sur mon sort, mais je remarquai un second fauteuil placé à côté de celui d'Imbre, près de l'âtre, sur lequel on avait déposé une pile de serviettes et une robe de laine bleue. Mon vieux maître avait aussi sorti de la charpie et des pansements, ainsi qu'un pot d'onguent, odorant. Malgré tout ce dont il avait sans doute à s'occuper, il avait tout de même trouvé le temps de penser à moi. C'est ce que je pensais, tout en sachant pertinemment qu'il ne s'était certainement pas chargé d'apporter tout seul les seaux d'eau. Avait-il un domestique, ou bien un apprenti? Cela restait un mystère pour moi. Je versai de l'eau fumante dans la baignoire, puis y ajoutai de la froide pour ajuster la température. J'entassai divers mets sur un plateau que je posai près de mon bain, à côté de la bouteille de vin ouverte. Je laissai tomber par terre mes habits trempés, plaçai l'amulette de Gina sur la table et dissimulai mes plumes dans l'enroulure d'un des manuscrits les plus poussiéreux d'Imbre. Enfin, je défis le bandage qui me prenait le cou et enjambai le bord de la baignoire. Je m'enfonçai lentement dans l'eau, puis m'adossai confortablement. Je me restaurai tout en savourant la sensation de l'eau bien chaude sur mon corps, bus un verre de vin et me lavai de façon décousue, sans méthode. Peu à peu, le froid commença d'abandonner mes os. La lourde tristesse qui refusait de me quitter me donnait l'impression d'une créature familière et fatiguée. Astérie jouait-elle et chantait-elle dans la grande salle? Cire Doré conduisait-il la grand-veneuse Laurier sur la piste de danse? Que pensait le prince de voir de cet enfant que la tempête avait déposé sur le pas de sa porte? Je me laissai aller en arrière, la nuque sur le rebord de la baignoire. Je bus directement au goulot de la bouteille, et je dus m'assoupir.
Fitz !
Le ton inquiet du vieil homme me fit sursauter, et je me redressai brusquement en éclaboussant le dallage autour de moi. Je tenais toujours la bouteille. Il la prit avant que je ne la renverse et la posa fermement sur la table.
« Tu vas bien ? »
fit-il d'une voix tendue. « Je crois que je me suis endormi. » Je me sentais désorienté, l'œil fixe, Je le regardais dans ses atours raffinés, avec ses bijoux aux oreilles et à la gorge qui scintillaient dans la lueur mourante du feu. J'eus soudain l'impression de me trouver devant un inconnu, et j'éprouvai un grand embarras à m'être laissé surprendre à somnoler, nu et ivre à demi, dans une baignoire d'eau tiédissante. « Attendez d'abord que je sorte d'ici, » marmonnai-je.
« Je t'en prie, »
répondit-il, et il s'en fut alimenté le feu, pendant que je m'extirpais du bain, me séchais et enfilais la robe bleue. La peau de mes mains et de mes pieds était toute fripée de sa longue immersion dans l'eau. Humbre remplit une casserole, la posa sur la plaque de côté de la cheminée, puis prit une tisanière et des tasses sur une étagère, et enfin mélangea plusieurs herbes prélevées dans une rangée de pots fermés par des bouchons de liège.
« Quelle heure est-il ? » demandai-je d'une voix pâteuse.
« Il est si tard que Burick parlerait de l'aube, » répondit-il.
Il installa une petite table entre les deux sièges devant l'âtre, sur laquelle il disposa sa tisanière et les tasses. Puis, il s'assit dans son vieux fauteuil râpé, en me faisant signe de prendre celui d'en face. J'obéis et scrutai son visage. Manifestement, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, mais il paraissait moins fatigué que momentanément vidé de son énergie. Ses yeux étaient brillants, et ses mains ne tremblaient pas. Il les croisa sur ses genoux et les regarda un moment sans rien dire.
« Je te fais mes condoléances, »
fit-il à mi-voix. Il leva les yeux et croisa mon regard.
« Je ne veux pas faire semblant de comprendre ce que tu peux ressentir. Ton loup était un fier animal. Sans lui, la reine Kétriken n'aurait jamais pu s'échapper de Castelser autrefois. Et... elle m'a souvent raconté que c'est lui qui vous a fourni de la viande pendant toute votre traversée du royaume des montagnes. »
Son regard se fit plus vif.
« As-tu jamais songé que sans lui, nous ne serions ici ni l'un ni l'autre ?»
Je n'avais aucune envie de parler d'œil de nuit, pas même d'écouter les souvenirs attendris que d'autres gardaient de lui. Il y eut un silence gêné, puis je demandai. « Alors ?» Tout s'est-il bien passé ce soir, la cérémonie de fiançailles et tout le reste?
Oh, il ne s'agissait que de la cérémonie d'accueil. Les fiançailles ne seront solennellement prononcées qu'à la pleine lune, demain soir, et tous les ducs doivent impérativement être présents. Le château va être bourré à craquer de leur suite, sans parler de toute la population de Bourg de Castelser.
La Narcheska, je l'ai vue. Ce n'est qu'une enfant. Un sourire insolite illumina le visage d'Imbre.
« Si pour toi ce n'est qu'une enfant, c'est sans doute que tu ne l'as pas vraiment vue. C'est une reine en bourgeon, Fitz. J'aimerais que tu puisses faire sa connaissance et parler avec elle. Par une chance miraculeuse, les Outriliens nous ont offert le parti le plus parfaitement assorti à notre prince. »
« Et Devoir partage cette opinion ?» demandai-je, poussant mon avantage. Imbre se redressa brusquement.
« Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu poses des questions à ton maître maintenant. Fais-moi ton compte-rendu, jeune arriviste. »
Son sourire émoussa tout le tranchant de ses propos. J'obéis. Quand l'eau parvint à ébullition, Imbre fit infuser la tisane, puis la servit, forte et piquante. J'ignore ce qu'elle contenait, mais elle dissipa de mon cerveau les brumes de la fatigue et de l'alcool. Je racontai à Imbre nos tribulations jusqu'à notre arrivée à l'auberge où nous attendait Astéry près du bac. Comme toujours, il conserva un visage impassible tandis qu'il m'écoutait. S'il fut choqué ou bouleversé, il n'en montra rien. Sauf une fois, où il fit une petite grimace quand j'évoquais l'épisode où j'avais plaqué Devoir de toutes mes forces à plat d'eau sur la plage. Quand j'eus terminé, il prit une longue inspiration, se leva, et fit le tour de la pièce à pas lents. Enfin, il revint à son fauteuil où il s'assit lourdement.
« Notre prince a donc le vif, »
dit-il d'une voix sourde. Je m'attendais à bien des réflexions de sa part, mais pas à celle-là. « Vous en doutiez ? » Il secoua légèrement la tête.
« J'espérais que nous nous étions trompés. » Le fait que ces gens du lignage savent qu'il est de ce sang, c'est un poignard posé sur notre cœur. À tout instant, les pieds risquent de l'enfoncer simplement en ouvrant la bouche.
Son regard devint distant.
« Il faudra surveiller les Brisingas, je pense. Oui, c'est ça. La reine Kétriken priera Dame Brisinga de prendre dans sa suite certaines jeunes femmes de bonne famille, mais sans guère d'avenir. Je jetterai aussi un coup d'œil sur les relations familiales de Laurier. Oui, je connais tes réticences, mais trop de prudence ne saurait nuire concernant le prince. Quel dommage que tu aies laissé s'enfuir ces pies. Mais tu n'y pouvais rien, je m'en rends bien compte. S'il ne s'agissait que d'un ou deux individus, voire trois, nous pourrions mettre discrètement un terme au péril. Malheureusement, c'est non seulement une dizaine de membres du lignage, mais aussi ces pis survivants qui sont au courant du secret du prince. »
Il réfléchit un instant.
« Peut-on les acheter ?»
Le voir retomber dans ses petits complots m'accabla. Mais c'était sa nature. Je le savais. Autant reprocher à un écureuil de faire des réserves de noisettes. Pas en espèces sonnantes et trébuchantes, répondis-je, enfin. Mais quelques mesures pourraient les satisfaire. Pliez-vous à leur demande, faites preuve de bonne volonté, incitez la reine à protéger plus efficacement les vifiers des persécutions.
« Mais elle l'a déjà fait !»
se récria-t-il.
« À cause de toi, elle a dénoncé ces exécutions et à plusieurs reprises. » La loi des six duchés interdit qu'on tue quelqu'un seulement parce qu'il a le vif. Il faut prouver que l'inculpé a commis d'autres crimes. »
Je conservais mon calme. « Et cette loi a-t-elle été suivie des faits ?»«
Il revient à chaque duc d'appliquer la loi dans son propre duché. »
« Et en serre ?» demandai-je à mi-voix. Humbre se tut un moment. Il se mordilla la lèvre, les yeux dans le vide. Il jugeait la situation. Pour finir, il demanda.
Tu penses donc qu'une application plus stricte de la loi à l'intérieur des frontières du duché de Serre pourrait les satisfaire?
Ce serait un début. Il poussa un grand soupir.
J'en discuterai avec Sa Majesté. Je n'aurai d'ailleurs pas besoin de déployer une grande éloquence. À la vérité, j'ai tenu jusqu'à présent le rôle inverse. Je l'incitais à respecter les traditions du peuple dont elle avait la charge, car elle... J'éclatais. Les traditions! Le meurtre et la torture des traditions.
Humbre haussa le ton pour terminer sa phrase.
« Car elle tient les rênes d'une alliance turbulente. Depuis la fin de la guerre des pirates rouges, elle use de trésors d'habileté pour maintenir l'équilibre entre les duchés. Il faut avoir la main légère pour cela, Fitz, et assez de discernement pour savoir quand faire front et quand lâcher du lest. »
Je songeais à l'odeur qui flottait près de la rivière et au bout de cordes tranchées qui pendaient à la branche. Je pense qu'en l'occurrence, elle doit faire front.
En serre.
Au moins en serre. Humbre posa sa main sur sa bouche, puis se prit le menton entre le pouce et l'index.
D'accord,
fit-il. Et c'est alors que je compris que notre conversation était en réalité une négociation. Je ne m'étais pas montré fort brillant, mais après tout, je me croyais en train de faire un rapport. Pourtant, en y réfléchissant, qui d'autre que moi pouvait parler au nom du lignage? Sire Doré? La grand-veneuse Laurier, qui n'avait aucune envie de se voir associée à ce groupe? Je regrettais de ne m'être pas montré plus résolu. Puis je songeais que je pourrais me rattraper en parlant avec la reine Kétriken. « Eh bien ?» Que pense notre reine de la fiancée du prince de Voir? Humbre me regarda un long moment sans rien dire.
Me demandes-tu un compte rendu?
Son inflexion me fit hésiter. Était-ce un piège? Une de ces questions faites pour acculer l'interlocuteur? Non, c'est une simple interrogation. Je n'ai aucun droit.
Ah, de Voir, c'est donc mépris, et tu n'as pas l'intention de le former.
Je tournais les deux idées en tous sens pour y trouver un lien logique, puis je renonçais. « Mais si j'ai accepté ?» fis-je avec circonspection.
« Alors, non seulement tu peux, mais tu dois avoir accès à ces renseignements. Si tu prends en charge la formation du prince, il te faut être au courant de tout ce qui le touche de près ou de loin. Dans le cas contraire, si tu comptes retourner dans ta retraite d'ermite, si tu poses la question uniquement pour connaître les derniers potins de la famille... »
Je reconnus un de ces vieux trucs. Si on laisse une phrase en suspens, la personne en face a tendance à vouloir l'achever, et, ce faisant, risque de trahir ce qu'elle pense véritablement. Je ne réagis donc pas et restais à contempler ma tasse tout en mordillant mon pouce. Finalement, exaspéré, Humbre se pencha pour écarter brutalement ma main de ma bouche.
« Eh bien »
fit-il sèchement. « Que vous a dit le prince ?» Ce fut son tour de conserver un moment le silence, et attentif comme un loup, j'attendis qu'il se décide à répondre.
« Rien, »
avoua-t-il enfin.
« J'espérais, c'est tout. »
Je me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil et fis la grimace en sentant mon dos frotter douloureusement contre lui. « Allons, mon vieux maître, » fis-je d'un ton d'avertissement en secouant la tête, et puis je me mis à sourire sans le vouloir. Je pensais que les ans auraient arrondi vos angles, mais il n'en est rien. Pourquoi nous imposer ce genre d'échange ?
« Parce qu'aujourd'hui, je suis le conseiller de la reine, et non plus ton mentor, mon garçon. Et aussi parce que, malheureusement, il y a des jours où mes angles s'arrondissent, selon ton expression, où j'oublie des détails, et où tous les fils que j'ai soigneusement réunis dans ma main s'en mêlent inextricablement. Je m'efforce donc de rester prudent, et plus encore, dans tous les aspects de ma vie. »
« Qu'y avait-il dans la tisane ? » demandai-je tout à coup.
« Quelques nouvelles plantes que j'essaye. On en parle dans les manuscrits sur l'art. Pas d'écorce elfique, rassure-toi. Jamais je ne te ferai rien prendre qui risquerait d'amoindrir tes capacités. »
« Mais ces plantes aiguisent vos facultés, c'est ça ?»«
Oui. Il y a cependant un prix à payer, comme tu l'as sûrement déjà deviné. Tout a un coût, Fitz, tu le sais comme moi. Nous allons tous les deux passer l'après-midi dans nos lits respectifs, crois-moi. Mais pour l'instant... « Nous avons tous nos esprits. Alors parle. »
J'hésitais, ne sachant comment présenter ce que j'avais à lui dire. Je levai les yeux vers le manteau de la cheminée, au centre duquel se trouvait toujours enfoncé un couteau, et je songeais à ma confiance d'enfant, à mes confidences d'adolescent, à tout ce que j'avais promis autrefois au roi subtil. Le regard d'Humbre suivit le mien. « Il y a bien longtemps, » fis-je à mi-voix. « Vous avez mis à l'épreuve ma fidélité au roi. Vous m'avez demandé de voler un objet qui lui appartenait, comme s'il s'agissait d'une simple espièglerie. Vous saviez que je vous aimais. Je devais donc choisir entre cet amour et ma fidélité au roi. Vous en souvenez-vous ?»«
Oui, » répondit-il d'un ton grave, « et j'en ai encore des remords. »
Il poussa un grand soupir. « Et tu as réussi l'épreuve. » Même par amour pour moi, tu as refusé de trahir ton souverain.
Je t'en ai fait voir de dur, Fitz, je le sais. Mais c'est mon roi qui avait voulu que je te mette à l'épreuve.
Je hochai lentement la tête. Je comprends. Moi aussi, j'ai fait le serment de servir la lignée des loin-voyants, Humbre, tout comme vous. En revanche, vous ne m'avez pas juré fidélité. Ni moi à vous. Il y a de l'affection entre nous, mais aucun engagement de loyauté. Il me regardait avec grande attention, le front barré d'un pli vertical. Je repris. Ma fidélité va au prince Humbre, et je pense que c'est à lui de juger ce qu'il doit partager avec vous. Je rassemblai mon courage et, avec un immense regret, amputai une partie de ma vie. Vous l'avez dit, mon vieil ami, vous êtes le conseiller de la reine aujourd'hui. Et non plus mon mentor, et je ne suis plus votre apprenti. Je baissai les yeux vers la table et bandai ma volonté. Ce que j'avais à dire était difficile. Mon prince décidera de ce que je suis pour lui, mais plus jamais je ne vous rapporterai mes entretiens privés avec lui, Humbre. Il se dressa brutalement. À ma grande horreur, je vis des larmes briller dans ses yeux verts et perçants. Il demeura un instant immobile, les lèvres tremblantes, puis il fit le tour de la table, prit ma main dans les siennes et se pencha pour baiser mon front.
« Grâce soit rendue à Aïda et elle, » dit-il dans un murmure rauque. « Tu es à lui, et il restera en sécurité quand je ne serai plus là. »
J'étais muet de stupéfaction. Il regagna lentement son fauteuil, s'y assit, prit la tisanière et nous resservit. Il détourna le visage pour s'essuyer les yeux, puis il ramena son regard sur moi, poussa ma tasse dans ma direction et déclara.
« Très bien. Veux-tu mon compte-rendu dès maintenant ?